Bienvenue sur Les Ados de la Radio, présenté par
Chloé,
Cléa,
Muriel,
Alphonse,
Raphaël,
Lindsay
et Sarah.
Aujourd'hui, c'est Halloween. Je suppose que pour vous, c'est une fête effrayante. Mais savez-vous tous les mystères de cette fête ? L'équipe, les ados de la radio, vont vous raconter tous les secrets et l'histoire terrifiante d'Halloween, à commencer par Gabriel et son thème effrayant et mystérieux de l'Urbex. À toi, Gabriel.
Déjà, c'est quoi l'Urbex ? L'Urbex, ça veut dire exploration urbaine. C'est une activité frissonnante qui consiste à visiter des lieux abandonnés ou inaccessibles au public. Les personnes assez courageuses pour en faire sont nommées urbexeurs. L'historien Nicolas Hofstad définit l'exploration urbaine comme une visite sans autorisation et plus souvent sans but lucratif de lieux délaissés ou abandonnés. Cette activité inclut la visite des lieux cachés ou difficiles d'accès, tels que des manoirs, des écoles, des entrepôts désaffectés, des hôpitaux, etc. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, assez classique, est le goût pour l'aventure. Pénétrer dans ces lieux condamnés s'avère généralement assez sportif, voire acrobatique, où on passe par les toits, par des trous, dans les clôtures, sans oublier les petits côtés club des 5, car tout cela fait un peu peur. Combien de personnes font de l'urbex ? Pourquoi c'est-il dangereux et pourquoi font-ils ça ? L'urbex est pratiqué aujourd'hui par des milliers de personnes et en fascine des centaines de milliers. Le nombre important de sites internet consacrés au phénomène parle de lui-même. L'urbex, victime de son succès, si l'urbex est une activité marginale et clandestine, on estime un peu plus de 10 000 le nombre d'urbexeurs en France. La majorité des personnes connaissent l'urbex, savez-vous pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Malheureusement, l'urbex s'est démocratisé avec les réseaux sociaux, notamment YouTube et aussi TikTok. Ce sont souvent des gens qui veulent faire du sensationnisme. Les personnes ne viennent plus pour visiter les lieux, mais par exemple pour entrer en contact avec les esprits. Les amateurs d'urbex ou exploration urbaine s'y aventurent parce qu'ils s'intéressent à l'histoire, pour prendre des photographies ou juste pour le frisson, de découvrir un lieu où personne ne va, comme il est généralement interdit d'entrer dans les spots où on pratique l'urbex, l'activité est considérée comme illégale. Les usines abandonnées, par exemple, sont des lieux réputés les plus dangereux. Bien que faciles d'accès, on y trouve beaucoup de trous, de boue, d'éléments qui peuvent tomber, de produits chimiques. Un accident peut vite arriver, certains sont déjà décédés en pratiquant l'urbex. Si on se fait prendre en train de faire de l'urbex, 30 000 euros d'amende.
Quand on fait de l'urbex, c'est dans le noir ou souvent dans des lieux abandonnés. Bref, ça fait peur. Mais pourquoi aimons-nous ce sentiment ? C'est ce que Chloé va nous expliquer en sa chronique scientifique maintenant.
Pourquoi aimons-nous nous faire peur ? Comment fonctionne ce sentiment étrange ? Un bruit suspect, une araignée sur votre lit, une voiture qui surgit ? Presque instantanément, votre respiration s'accélère. Votre cœur palpite, vos mains tremblent, vos pupilles se dilatent, vos poils se hérissent et peut-être même poussez-vous un cri d'effroi. Vous avez eu peur. Que s'est-il passé dans votre cerveau ? Les organes sensoriels, des organes qui captent les impressions du monde extérieur, principalement les yeux et les oreilles, transfère en passant par le thalamus l'information à l'amygdale. L'amygdale, même si elle n'est pas l'hormone de la peur comme on l'a longtemps cru, est très importante dans ce processus. C'est elle qui crie au loup, qui fait l'association entre un signal perçu et le potentiel danger qu'il représente. Si l'amygdale décide ou non de sonner l'alerte, c'est aussi elle qui pilote la réponse de peur, qui est le chef d'orchestre. Elle envoie des ordres à différentes structures. Parmi elles, il y a l'hypothalamus qui, à son tour, commande au système nerveux la sécrétion, donc la création d'adrénaline, et aux glandes surrénales, celle de cortisol, l'hormone du stress. La première va exciter le cœur et les artères, ce qui accélère le flux sanguin. La seconde va augmenter la glycémie et donc fournir de l'énergie à nos muscles. Chacun de ces composants optimise la réaction de l'organisme. Si l'on doit fuir ou se battre, le fameux « fight or fly », Cet afflux d'oxygène et d'énergie sera bénéfique. Néanmoins, si l'amygdale a l'avantage de la rapidité, elle peut parfois surréagir. D'où la deuxième voie de signalation, un peu lente, quoique cela se joue à quelques dixièmes de seconde près, impliquant cette fois-ci le cortex préfrontal. Celui-ci analyse la situation et freine l'amygdale si sa réaction n'était pas justifiée. Mais qu'est-ce qui nous fait peur? Pourquoi avons-nous plus peur d'un serpent plutôt que d'une tortue? Et pourquoi les araignées sont-elles si peu aimées? De la petite peur à la phobie paralysante, le malaise ressenti face aux araignées touche beaucoup d'entre nous. Mais d'où vient cette frayeur et a-t-on vraiment raison de craindre ces petites bestioles? L'angoisse que les araignées suscitent chez les hommes est en partie culturelle. Elle est entretenue par les films et par les nombreux clichés sur Internet qui représentent les araignées avec des dimensions impressionnantes et surtout irréelles. Les araignées représentent pourtant un danger très faible pour les êtres humains. On a en moyenne 500 000 espèces d'araignées dans le monde. Il y en a environ une centaine dont la morsure provoque une réaction et une quinzaine qui sont potentiellement dangereuses. En clair, certaines araignées, comme les veuves noires, ont certes un venin puissant pour tuer les prises, pour tuer leurs prises. Mais nous ne faisons pas partie de leur proie. En résumé, aucune araignée n'est mortelle. Chez les rongeurs, des expériences ont montré que leur peur est innée. Ils sont nés avec. Les souris qui n'en ont jamais rencontré montrent une réponse de peur si on leur présente l'odeur du chat. Chez les êtres humains, en revanche, il n'y a pas ce concept de peur innée. La plupart de nos peurs sont apprises. L'apprentissage est très rapide. Il suffit d'une seule expérience, ce qui s'explique facilement, car sinon la deuxième pourrait être fatale. Réaction à un danger imminent qui menace notre vie, la peur est une émotion désagréable. Et pourtant, certains d'entre nous aiment se faire peur. Comment expliquer? Chez les adolescents, des films d'horreur relèvent du rite de passage. Et parce qu'ils ont anticipé la peur qu'ils allaient éprouver, mais l'ont surmontée, cela constitue à une victoire pour eux-mêmes. Dans les films de monstres ou de tueurs en série, à la fin, les méchants sont souvent attrapés ou tués, et la peur est stoppée par ce dénouement heureux. Enfin, les films d'horreur ont une fonction exutoire, ils permettent de canaliser nos pulsions et nos peurs intérieures. Bien sûr, nous n'avons pas tous la même tolérance à la peur. Pour certains, une maison hantée peut être ennuyante, alors que pour d'autres, c'est un cauchemar. L'important est de bien se connaître et de respecter ses limites. Une exposition trop longue et trop intense aux situations stressantes ou effrayantes peut nuire à notre santé, tant mentale que physique. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix éviter la peur. Une exposition ponctuelle peut au contraire être positive. Ça peut nous permettre de moins redouter l'imprévisible et de mieux gérer notre réaction face aux nouvelles choses et inattendues. D'ailleurs, dans le cadre de l'apprentissage par le jeu chez les enfants, un petit facteur de risque et de peur peut permettre le développement d'une meilleure tolérance à l'anxiété. Donc, tout comme les bonbons, la peur est à consommer avec modération. D'ailleurs, bien loin d'être les plus angoissés, les amateurs de films d'horreur le sont plutôt moins que la population générale. Une étude réalisée par Colton Scriver le prouve. Il interroge 322 personnes. Sur ce groupe, les chercheurs ont montré que les amateurs de films d'horreur avaient ressenti moins de détresse psychologique que les autres au début de la pandémie du Covid-19. Quant aux amateurs de films apocalyptiques, ils se sont sentis mieux préparés et moins surpris par l'ampleur des événements. Merci de m'avoir écouté.
Merci pour ces explications passionnantes. Et pour continuer sur la peur, partons sur un sujet creepy, les jeux vidéo d'horreur.
Se faire surprendre par un screamer, se mettre dans le noir avec seulement l'écran d'allumé, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, qu'on soit seul ou à plusieurs, on aime à peu près tous ce sentiment pesant d'un jeu vidéo d'horreur. Dans cette chronique, on va en parler, mais aussi vous donner plein de secrets que les développeurs utilisent pour nous surprendre comme nous faire frissonner. Déjà, parlons du plus évident, les monstres, ou tout ce qui touche au surnaturel. Même s'il existe des jeux comme Hello Neighbor qui n'a pas de monstres, la grande majorité en contient. Que ce soit FNAF avec les animatronics ou The Last of Us avec ses zombies, les développeurs adorent nous montrer leurs créatures. Mais pourquoi? Déjà, les monstres n'existent pas. Donc ne pas savoir comment les contrôler ou les battre est en soi très inquiétant. Aussi, ça laisse libre cours à l'imagination. Créer de nouveaux monstres avec leur histoire et leurs caractéristiques est super amusant. Mais il y a une autre raison, un peu plus discrète. Pouvoir créer un monstre permet de les rendre gigantesques et donc de créer un contraste avec le personnage qu'on incarne. D'ailleurs, on a remarqué un autre détail. tous les géographiques sont à la première personne. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que cela veut dire, ça veut dire qu'on ne voit pas notre personnage. On voit le monde à travers ses yeux, comme dans la vraie vie. Vous l'avez sûrement compris. Il utilise ce point de vue pour que les joueurs rentrent plus facilement dans la peau du personnage. D'ailleurs, il existe des jeux vidéo en réalité virtuelle pour nous plonger encore plus dans le monde. Et ça ne m'étonnerait pas d'en retrouver de plus en plus dans le marché des jeux vidéo. Le lieu compte également beaucoup, car nous n'aurons pas aussi peur dans sa maison que dans un hôpital abandonné. Enfin, bien sûr qu'on va avoir plus peur dans un lieu délabré, abandonné, ou bien au fond d'une forêt sombre. Mais beaucoup de jeux partent dans une autre direction, comme Poppy Playtime, FNAF ou Garden of Baban. Ceux qui connaissent un de ces trois jeux l'ont sûrement compris, mais je parle de jeux où on a retrouvé des enfants, souvent joyeux, heureux. Alors les développeurs décident de mélanger ce côté enfantin avec le côté malsain et horrifique, pour nous faire peur. Mais chaque détail est placé pour faire en sorte de nous faire frissonner, comme les lumières. Par exemple, on va retrouver des lumières rouges en dessous d'une porte, des lumières froides pour donner un côté morbide, ou encore une lampe clignotante pour nous faire apparaître une créature pendant un instant de même pas 0,1 seconde. Mais on peut aussi toutes les enlever pour avoir le champ de vision réduit et nous faire stresser encore plus. Depuis tout à l'heure, on parle des monstres, les lieux ou encore la lumière, que des choses visibles. Mais les développeurs mettent toutes leurs chances de leur côté pour nous mettre un stress constant. On va aborder les musiques. Quand je dis ça, on peut directement penser à la musique rapide et forte qui se lance quand un danger arrive sur nous. Ce son est là pour nous mettre en état de panique et nous empêcher de réfléchir correctement. Mais il y a aussi un son très grave et lent, et les petits bruitages de l'environnement, comme des gouttes d'eau qui tombent à cause d'une fuite par exemple, pour ne pas qu'on s'ennuie ou même juste pour nous laisser dans l'ambiance. Et voilà, la majorité des secrets des jeux vidéo horrifiques vous sont révélés, mais il reste sûrement quelque part d'ombre.
Merci pour cette chronique. Saviez-vous que dans certains jeux vidéo d'horreur, on peut trouver des monstres déjà existants, comme le Skinwalker par exemple? C'est ce dont va nous parler Gabriel.
Merci Alphonse pour la transition. Voici la fameuse légende des Skinwalkers. Les Skinwalkers, connus des Navajos sous le nom des Yinaldoshi, étaient une légende née des profondes croyances culturelles et spirituelles de la tribu Navajo. C'est quoi un Skinwalker? Selon des légendes, le Skinwalker se transforme souvent en loup, chien, corbeau ou encore coyote et très rarement en humain. Ce sont des guérisseurs devenus mauvais et qui ont commencé à utiliser leur pouvoir et magie pour faire du mal ou provoquer le malheur des autres. La capacité la plus connue d'un skinwalker est la capacité de prendre la forme d'un animal. On dit également que les skinwalkers ont des pouvoirs hypnotiques et peuvent manipuler et effrayer leurs victimes simplement en les regardant, ou l'intermédiaire de voix mystérieuses et chuchotantes. Les skinwalkers sont-ils réels? Les skinwalkers sont des magiciens amérindiens, mais les gens les voient généralement comme des créatures gremlins blanche et maigre, ce qui n'est pas un skinwalker. On fait souvent le rapprochement au Wendigo, un monstre cannibale amérindien.
Merci pour ces révélations. Nous partons maintenant dans un tout autre univers nimbé de mystères que Raphaël va nous révéler, le monde des costumes.
Merci Cléa pour la transition. Un grand élément d'Halloween est bien sûr les costumes. Les costumes est une tradition pour Halloween. Il peut en avoir de différentes sortes. La tradition des costumes se dévoile dans de nombreux pays comme le Japon qui y tient énormément depuis leur début du siècle. Il y a de nombreux fabricants de costumes en France et partout dans le monde. Personne ne sait encore combien il y en a. Peut-être restera un mystère comme Halloween, nous le saurons point. Parfois, les matières utilisées sont différentes, et les manières aussi, car le peuple des Zoulous, en Amérique du Sud, les tricote et les fabrique à la main, comparé à nous. Mais on parle des costumes des humains, mais on oublie les citrouilles et les accessoires comme le fameux couteau planté dans la tête. Les accessoires d'Halloween sont une menace malheureusement pour la biodiversité et la faune sauvage, car même si les humains se décorent, ils font de même avec leur maison. Avec les fameuses toiles d'araignée, mais malheureusement, les oiseaux s'y prennent dedans. En plein vol. Ce qui fait que les toiles d'araignées sont également une menace pour la faune. Et si un petit mammifère vient à rentrer dans une toile d'araignée et à se coincer, un autre vient à le manger. Et par malheur, s'il avale aussi le plastique qui n'est pas toxique, mais il peut abîmer leur système digestif. Beaucoup de vétérinaires en parlent, car ça peut les mener à la mort. Mais n'oublions pas que d'abord, Halloween est une fête joyeuse, festive et effrayante.
Avez-vous tremblé devant ces chroniques effrayantes ? Peut-être. Alors retrouvez-nous sur les ados de la radio à la rentrée de janvier, sur le site du collège Lautrentanel et sur les ondes de la radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Et joyeux Halloween !